Bienvenue sur BetaFinch, votre analyse d'actualité boursière alimentée par l'intelligence artificielle. Je suis Alex, et aujourd'hui, nous décomposons les résultats du premier trimestre 2026 de Coca-Cola. Le nouveau PDG Enrique Braun a présenté des résultats solides malgré un environnement macroéconomique complexe. Rejoignez-moi avec mon collègue Jordan alors que nous explorons ce que cela signifie pour les investisseurs. Ce podcast est un contenu généré par intelligence artificielle à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Rien de ce que nous discutons ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement.
Merci Alex. Commençons par les chiffres. Coca-Cola a connu un trimestre solide avec une croissance du chiffre d'affaires organique de 10%, ce qui est vraiment impressionnant pour une entreprise de cette taille. Mais voici ce qui est vraiment intéressant, la croissance unitaire des cas a été de 3%, tandis que le prix au mélange était seulement de 2%.
C'est exactement sur quoi je voulais me concentrer. Pendant des années, nous avons vu les sociétés de biens de consommation réaliser une croissance basée sur les prix, mais Coca-Cola semble vraiment équilibrer le volume et les prix. C'est ce qu'ils appellent leur algorithme équilibré. Peux-tu nous expliquer ce que cela signifie réellement ?
Absolument. Essentiellement, Coca-Cola reconnaît que les consommateurs, en particulier les consommateurs à revenus faibles, sont sous pression due à l'inflation persistante. Alors, au lieu de continuer à augmenter les prix, ce qui aurait pu cannibaliser le volume, ils se concentrent sur la croissance du volume tout en maintenant une augmentation de prix modérée. Enrique Braun a explicitement dit qu'ils vont où le consommateur est et qu'ils élargissent leurs options d'accessibilité.
C'est fascinant parce que c'est à l'opposé de ce que beaucoup s'attendaient après quelques années de flambée des prix. Qu'en est-il du bénéfice par action? C'est généralement ce qui intéresse vraiment les investisseurs.
Le bénéfice par action comparable du premier trimestre a été de 86 cents, en hausse de 18% en glissement annuel. Cela comprend une aide des devises étrangères de 3%. Mais voici le point clé, leur taux d'imposition effectif a baissé, ce qui a incité la direction à augmenter sa guidance de croissance du BPA pour l'année complète de 7 à 8% à 8 à 9%.
C'est une augmentation significative de la guidance. Parlons du flux de trésorerie libre parce que c'est un nombre que les investisseurs à long terme devraient réellement suivre.
Exactement. Le flux de trésorerie libre était d'environ 1,8 milliard de dollars au premier trimestre, en hausse par rapport à l'année précédente. Et rappelez-vous, Coca-Cola maintient un endettement net par rapport à l'EBITDA de 1,6x, ce qui est inférieur à leur fourchette cible de 2 à 2,5x. Cela signifie qu'ils ont une flexibilité pour réinvestir dans l'entreprise ou retourner du capital aux actionnaires.
Maintenant, regardons les différentes régions. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parlons d'abord de l'Amérique du Nord, qui est le marché le plus important pour Coca-Cola.
L'Amérique du Nord a montré une performance solide. Ils ont gagné du volume et des parts de marché de valeur. Cependant, et c'est important, le prix au mélange était un peu faible, principalement en raison du calendrier de Pâques et du mélange de catégories défavorables. Par exemple, l'eau en bouteille et les boissons de conditionnement physique ont connu une croissance plus forte, ce qui pèse sur les marges.
Intéressant. Et Coca-Cola Zéro ? C'est une catégorie que je surveille toujours.
C'est ici que l'innovation entre en jeu. Enrique a discuté du relancement de Coca-Cola 00 en Europe, zéro sucre, zéro caféine, zéro calories. C'est basé sur une perspective consommateur clé, environ 60% des adultes en Europe surveillent leur consommation de caféine le soir. Le produit a connu un essai solide et des taux de répétition positifs, ce qui montre que Coca-Cola comprend vraiment où se trouvent les occasions de consommation.
C'est ce qu'ils appellent les 4 yeux, perspicacité, innovation, intimité et exécution intégrée. Qu'en est-il de l'Asie-Pacifique ? C'est un marché intéressant avec beaucoup de potentiel à long terme, mais j'ai remarqué que les marges ont baissé.
Oui, les marges du commerce opérationnel ont baissé d'environ 10 points en Asie-Pacifique. Mais John Murphy, leur directeur financier, a clarifié que 2/3 de cette compression de marge sont dues à un problème unique de stock de jus en Chine. Ils ont également eu des pressions de commodité dans le thé et le café, qui devraient continuer à l'être une pression mineure tout au long de l'année.
Mais la stratégie semble être d'investir pour la croissance future en Chine et en Inde. C'est une approche à long terme.
Exactement. Enrique a été très clair à ce sujet. Il a dit que quelques années auparavant, Coca-Cola a pris la décision de ne pas jouer dans chaque catégorie, mais plutôt de se concentrer sur les catégories où il pourrait gagner. En Chine, c'est les boissons gazeuses où ils continuent de mener le marché. En Inde, ils utilisent leur portefeuille de marques locales pour rester connectés aux consommateurs d'une manière unique. Mais John a noté que c'est un jeu à plus long terme.
Parlons du Middle East et d'Eurasia, car il y a clairement une situation géopolitique là-bas.
C'est une préoccupation valide. Enrique a noté que le volume a augmenté pour le trimestre global, mais en mars, après le début du conflit, le volume a décliné. Cependant, il a également souligné que leur priorité absolue est de soutenir la sécurité des associés du système et de maintenir la continuité des entreprises. Ils ont un livret d'exécution éprouvé pour naviguer ces situations.
Maintenant, jetons un coup d'œil à Latin America. Il y a eu du bruit autour des taxes sur le sucre au Mexique.
Oui, le Mexique a mis en œuvre une taxe sur le sucre au début de l'année, et cela a évidemment eu un impact. Cependant, Enrique a noté que le système avait une résilience forte et un livret pour gérer cette situation. Cela s'est produit auparavant en 2014. Ce qui est intéressant, c'est que les volumes au Brésil et en Amérique centrale ont plus que compensé les baisses au Mexique et en Argentine. C'est un bon exemple de la diversification géographique de Coca-Cola.
Qu'en est-il de la Coupe du Monde de la FIFA? Enrique a mentionné cela comme un élément clé du marketing.
C'est un activateur majeur pour eux. Ils ont commencé les activations en premier trimestre et envoient les résultats en deuxième trimestre. Ce qui était vraiment intéressant, c'est comment ils intègrent l'engagement numérique. Les consommateurs peuvent interagir avec l'emballage pour accéder au contenu de la campagne et aux expériences de récompense. C'est l'état actuel du marketing de Coca-Cola, pas seulement des publicités, mais des expériences numériques immersives.
Parlons maintenant de la marge brute. John Murphy a mentionné que c'était un peu anormal au premier trimestre.
Oui, la marge brute comparable a baissé d'environ 30 points de base, principalement en raison de pressions de commodités dans le thé et le café, du calendrier de dépenses commerciales et de ce problème de stock de jus que nous avons mentionné. Cependant, la marge opérationnelle comparable a augmenté d'environ 70 points de base, ce qui montre que Coca-Cola gère bien les inefficacités de fonctionnement et maintient l'efficacité des dépenses.
Et puis il y a le problème de la Coca-Cola Beverage Africa, ou CCBA. Qu'est-ce qui se passe là-bas?
Coca-Cola prévoit de vendre ses actions dans CCBA au second semestre de 2026, sous réserve d'approbation réglementaire. Cela devrait être un élément négatif pour les revenus, un élément de traînée de 4 points, mais positif pour les marges à long terme car c'est une activité de bottling à plus faible marge. Une fois la vente finalisée, les investisseurs devraient voir une expansion de marge significative.
Quelle est leur orientation pour le reste de 2026?
La direction est assez cohérente. Ils s'attendent à une croissance du chiffre d'affaires organique de 4 à 5% pour l'année. Pour la croissance du BPA comparable en devise neutre, ils ciblent 6 à 7%, excluant les acquisitions et cessions. Avec l'impact de la baisse des taux d'imposition, ils s'attendent maintenant à une croissance du BPA comparable de 8 à 9% versus $3 en 2025.
Qu'en est-il des vents de change? C'est un élément qui peut vraiment affecter les sociétés internationales.
C'est un beau coup de chance pour eux en ce moment. Ils anticipent maintenant un vent de change de 1 à 2 points sur les revenus, contre 1 point auparavant. Pour les BPA, ils s'attendent à un vent de 3 points. Cela aide clairement à la ligne de fond.
Une dernière chose avant de conclure, les investisseurs s'inquiètent toujours de la volatilité des matières premières. Que dit Coca-Cola à ce sujet?
C'est un bon point. Enrique et John ont tous deux reconnu que bien que certaines matières premières comme le thé et le café connaissent de la volatilité, ils pensent que l'impact global sur le panier de coûts est gérable pour le moment. Cependant, ils ont également noté que les tensions géopolitiques pourraient changer cet outlook. C'est une bonne reconnaissance de l'incertitude, mais aussi une confiance dans leur capacité à naviguer.
Alors, Jordan, si tu devais résumer tout cela pour un investisseur, qu'est-ce que tu dirais?
Je dirais que Coca-Cola a eu un début solide de l'année. Ils équilibrent la croissance du volume avec une augmentation de prix modérée, ce qui montre une bonne compréhension de la dynamique des consommateurs actuels. Leur innovation est forte, des produits comme Coca-Cola 00 et les activations numériques montrent qu'ils évoluent avec les consommateurs. Oui, il y a des défis géopolitiques, volatilité des matières premières, pression de marge en Asie-Pacifique, mais leur bilan est solide, le flux de trésorerie est robuste et ils augmentent leur guidance. C'est une entreprise stable et bien gérée.
Excellente analyse. Avant de conclure, je dois partager un avertissement important.
Absolument. Tout ce qui a été discuté est une analyse générée par IA à des fins éducatives. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez faire votre propre diligence raisonnable avant de prendre des décisions d'investissement importantes basées sur ces analyses.
Merci de nous avoir rejoints sur BetaFinch. Nous vous verrons la prochaine fois pour une autre analyse de résultats. Jusqu'à là, heureux d'investir. C'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cela utile, envisagez de soutenir BetaFinch sur Patreon. Votre soutien nous aide à améliorer nos voix et couvrir plus d'entreprises. Visitez patreon.com/betafinch pour en savoir plus. Merci de votre écoute.